France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les chansons de Pierre Macorlan, dernière partie. Comme nous avons pu le voir au cours de cette série d'émissions, les chansons de Pierre Macorlan ont séduit de multiples interprètes, quasiment toutes féminines, mais chacune avec sa personnalité, sans créer pour autant de concurrence excessive, puisque cela fait partie de la vie des chansons. Deux chanteuses ont toutefois eu tendance à s'approprier le répertoire de l'écrivain, au point de lui consacrer des albums entiers au cours des années 60. Il s'agit de Germaine Montero et de Monique Morelli. Ainsi, Écrit sur les murs fait partie des quatre chansons composées en 1958 par Georges Vamparis sur des textes de Macorlan et que Montero a réenregistrées en 65.
Qu'à peine l'on discerne des cœurs d'une flèche percée. Et tous ces jolis noms s'attardent dans le passé des jours exquis pour tourmenter les hommes de garde dans les guérites de minuit. Et tous ces jolis noms s'attardent dans le passé des jours exquis pour tourmenter les hommes de garde dans les guérites de minuit. Que les réverbères clignotaient sur les vieux murs couverts de crasse. Une fille déçue pleurait quand en cette nuit abolie on sonnait l'extinction des feux qui resterait la plus jolie dans ce mémorial des aveux. Quand en cette nuit abolie on sonnait l'extinction des feux qui resterait la plus jolie dans ce mémorial des aveux.
Installé de façon stable dans sa maison de Saint-Cyr-sur-Morin depuis les années 1920, Pierre Macorlan a acheté un pied-à-terre à Montmartre, rue Constance, en 57. Les deux résidences étaient impeccablement tenues par sa femme, Marguerite Luc, ancienne serveuse du cabaret Le Lapin Agile, qu'il a épousée en 1913. Il recevait donc, selon les cas, à l'une ou l'autre de ses adresses. Mais après la mort de Marguerite, en novembre 63, il s'est fixé à Saint-Cyr, où son fameux perroquet s'est arrêté de parler. Voici à présent un exemple de portrait critique que Macorlan aimait écrire sur les artistes de la chanson et qui montre son intérêt constant pour l'actualité de ce métier. En témoigne le nombre impressionnant de disques qu'il se faisait envoyer de façon régulière à Saint-Cyr-sur-Morin.
Il est inutile de présenter Germaine Montero. Son nom comporte l'autorité que donne le talent et l'intelligence dans la présentation de ses dons de comédienne et de chanteuse. C'est de Germaine Montero, interprète souvent passionnée de chansons, que je veux vous parler. Car l'usage que cet artiste fait d'une voix qui peut dresser, en nous émouvant, le décor des chansons qu'elle choisit, est d'une personnalité très franche. Montero choisit ses chansons soigneusement. Elle prend celles qui l'émeuvent elles-mêmes et elle engrave l'image dans notre souvenir en luttant courageusement contre un monde qui ne sait plus écouter. Le timbre de sa voix force l'attention et elle sait ressusciter des images qui semblaient effacées.
C'est une merveille, cet homme. Mais on était devenus très, très, très amis. Moi, j'allais beaucoup à Saint-Cyr. Puis lui venait tous les mercredis. Il avait pris l'habitude de venir tous les mercredis. On déjeunait chez Lippe, tous les deux. Et puis voilà, et puis on parlait, on passait l'après-midi ensemble. Et... alors, de temps en temps, il me laissait une chanson. Voilà. Il y a eu un gag parce qu'un jour, il m'a dit « Oh, Germaine !» Il m'a dit « Si je vous avais connu il y a 25 ans. » Et je lui dis, mais Mac, figurez-vous qu'il y a 25 ans. Moi aussi, j'avais 25 ans de moins. Alors là, il a éclaté de rire. Évidemment. Ah, c'est très drôle. Mais c'était vraiment un homme merveilleux.
Comme elle me le confiait en 1998 sur France Culture, Germaine Montero est depuis le début des années 50 l'interprète par excellence de Macorlan, celle qui lui est restée fidèle le plus durablement dans un rapport de compréhension mutuelle et artistique très fort. En janvier et février 65, année où l'écrivain fait également paraître son second recueil de textes intitulé « Mémoires en chansons », elle enregistre donc chez Pathé deux albums 33 tours comme une sorte d'anthologie Macorlan, avec au fil des séances des orchestrations signées François Robert, Christian Chevalier, Jean-Michel Defaille et Philippe Gérard. Cela représente au total 22 chansons dont beaucoup ont déjà été diffusées au cours de cette série d'émissions dans diverses interprétations antérieures. Parmi celles que vous n'avez pas encore entendues, voici une illustration des romans de Pierre Macorlan d'avant la guerre, Le départ des joyeux, mis en musique par Philippe Gérard. Du 19e siècle aux années 60, des jeunes gens ayant eu affaire à la justice française étaient incorporés pour leur service militaire dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, ou BADDAF, réputés pour leurs conditions particulièrement rudes et cruelles. La destination de ceux que l'on surnommait donc les joyeux était notamment la ville du Kef, en Tunisie, ou celle de Tataouine, aux confins sahariens.
Je m'en souviens bien, c'était au petit jour. La nuit se mourait dans une fin de vadrouille. Belle ville à Charonne, toutes les filles d'amour sapées comme des reines pleuraient leurs arsouilles. Daron et Tadab et ton petit frère m'avaient pas lâché dans cette averse-là. 3 ans pour le kef, c'est une sale affaire. J'aurai 3 ans de plus quand tu reviendras. Le long des fortifs, devant le bastion, on s'était groupés comme des fantômes. Les mouflettes chialaient un peu sans raison, car à cet âge-là, on ne sait rien d'un homme. Le grand bâtiment, plus noir que mon cœur, comme une prison se dressait dans la sorgue. C'était, on peut le dire, aussi enchanteur que d'aller casser la croûte à la morgue. Encristé par 4 entre les griffetons, je t'ai vu passer comme à la sauvette. Et puis les tambours avec les clairons firent brailler en cœur toutes les fillettes. Le refrain des joyeux nous tenait par le bras, car c'était l'espoir que chantait la clique. L'espoir de la classe quand elle reviendra, avec des souvenirs à mettre en musique. Ça fait 40 berges que j'attends ton retour. Des dragueuses m'ont dit, vu les circonstances, qu'on t'avait nommé général un jour. On a vu des choses beaucoup plus marrantes. Ce genre de salade ne me dit rien de bon. Ça n'est pas tout ça qui me donne du courage. Si tu ne reviens pas, général ou non, j'irai me foutre à l'eau faire des ménages.
Digne héritier de François Villon, son modèle de jeunesse en poésie, Pierre Macorlan est devenu un véritable historien de l'argot, ce qui l'a d'ailleurs conduit à collaborer à plusieurs dictionnaires sur le sujet. Plus généralement, c'était un amoureux de la langue. Comme Germaine Montero en 1965, Monique Morelli a consacré 2 albums à Macorlan qu'elle a enregistrés pour Le Chant du Monde, l'un en 62, l'autre en 68. Sur les 12 titres que ce dernier comporte, la moitié sont des chansons nouvelles mises en musique par son compagnon accordéoniste Lino Leonardi, ici interviewé en 1980 par Noël Simsolo pour France Culture.
On allait voir Macorlan toutes les semaines. C'était le week-end, c'était un mythe, c'était un peu le lourd de notre semaine de cabaret. On allait trouver Macorlan une fois par semaine et puis on parlait chansons, etc. Et il écrivait des textes, et puis évidemment, comme tous les auteurs, il avait sa musique dans la tête. Alors ça commençait toujours par pom pom pom, et hop, il débitait le texte. Bon, et là-dessus, bon, j'ai mis en musique des textes de Macorlan parce que j'aimais beaucoup. C'est ce que j'appelle un écrivain de chansons merveilleux.
Est-ce qu'il chantait avec toi?
Il m'a chanté pom 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 la rue qui pavoise. Il m'a chanté pom 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 la ville morte. Il m'a chanté les compagnons du Tour de France, des choses comme ça, que j'ai mis en musique.
L'accordéon geint dans les cours, l'enfant divin vous tire la barbe. Le vent du nord s'accroche aux arbres, ainsi s'annonce le printemps.
Venez vers nous, ô beaux enfants, enfants perdus, tendres gisquettes. Mettez des fleurs à vos casquettes. Selon l'usage des truands, les margotins des jours de fête fleurissent la lourde des bougnats. Voici le surplus des marcas, de la chapelle à la Villette. Voici les greluches de Paris, les vieilles dettes montmartroises et leurs souvenirs rajeunis. C'est toute la rue qui pavoise. C'est toute la rue qui pavoise, qui pavoise, qui pavoise.
La rue qui pavoise fait partie de l'album que Monique Morelli a consacré en 1968 à Mac Orlan. Deux ans plus tard, la chanteuse se confiait à Luc Bérimont dans l'émission La fine fleur de la chanson française sur France Inter.
Monique Morelli, vous êtes l'interprète des poètes. Vous avez chanté tour à tour Mac Orlan que nous venons d'entendre. Vous avez chanté Carco, vous avez chanté Rictus, vous avez chanté Aragon. Vous avez chanté beaucoup d'autres poètes encore. Je voudrais vous demander pourquoi cet attachement sentimental à Mac Orlan auquel vous avez consacré deux disques.
Oh, parce que Mac Orlan, c'est un des poètes qui m'a le mieux appris la vie.
Il la sait.
Ah, il la connaît, oui, très bien, il la sait, oui. Mais avec Mac Orlan, quand on lit Mac Orlan et on écoute Mac Orlan, si on met en pratique ce que l'on en ressort, on est certain qu'on est armé toute sa vie. Mac Orlan a horreur des contes de fées, a horreur des histoires bien arrangées, bien faites, telles vous serez marié, vous serez heureux, vous aurez beaucoup d'enfants. Il rigole aussitôt. Et quand on écoute ces chansons, on sait très bien que la vie n'est absolument pas drôle et ne le sera jamais, quoi qu'on fasse, même les vacances organisées. Et quand on suit cette philosophie de Mac Orlan, la vie devient beaucoup moins pénible, parce que quand on sait que la vie n'est pas une chose drôle, on arrive à en trouver de bons moments.
Disons que c'est un professeur de morale, mais alors une morale au couteau.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi ça m'a aidé énormément.
Nous étions trois jolis garçons, tous les trois du même canton. Moi et Cadet, Cadet d'Orly, avec Elmire de Bois-Baudry. On sortait de l'apprentissage, moi charpentier, l'autre tonnelier. Plus Elmire, qui était sabotier. Le jour du tirage à revers, on était plus blanc que des navets. Que maudit soit sacré tirage et son foutu numérotage. En arborant nos numéros, y en avait qu'un de bon dans le lot. Et c'est moi qui l'eus en partage. J'avais donc rencontré la chance en tirant le bon numéro. Et je gueulais vive la dépendance sur la route qui mène à Meaux pour m'en aller à la Cayenne, prendre ma canne et mon trousseau. Un anneau d'or à mes oreilles.
Dans la famille des grandes interprètes des années 50-60 qui ont illustré la chanson poétique, il en manque au moins une dans le répertoire de Mac Orlan, c'est Cora Vauquer, en dépit de ses immenses qualités de diseuse et de comédienne de la chanson. Elle aurait pourtant voulu le chanter, mais reconnaissait qu'en l'espèce, elle manquait, selon sa propre expression, d'hormones mâles. C'est vrai que Mac Orlan a séduit des chanteuses à fort caractère et à voix plutôt grave. Lordiana, Germaine Montero, Monique Morelli, Francesca Solville, Juliette Gréco et parfois Catherine Sauvage. Voici à présent une des toutes dernières interprètes du vivant de Pierre Mac Orlan. Il s'agit d'une chanteuse et musicienne d'origine guadeloupéenne, Mounde Rivel, ici interviewée sur France Culture en février 1971 par Jean-François Noël.
Je sais que vous avez connu Mac Orlan. Est-ce qu'il aimait le patois créole?
Eh bien, Mac Orlan n'a jamais connu les Antilles. Un jour, je suis allée chanter chez lui. J'avais écrit une chanson qui s'appelle « Il n'y a pas que les Bretonnes qui soient filles de marins ». Ces Bretonnes-là, je les avais écrites à l'île de Sainte, pas l'île de Saint, mais l'île de Sainte en Guadeloupe. Parce que j'avais été dans une église, et puis il y avait des petits marins bretons, antillais, avec des yeux bleus et la peau colorée. Alors j'ai dit, il n'y a pas que les bretonnes qui soient filles de marins. Bien. Alors quand j'ai dit cette chanson à Pierre Mac Orlan, il m'a dit, écoutez Moon, il n'y a pas de raison que tu ne chantes qu'en patois créole. Je vais te faire une chanson, et cette chanson s'appellera « Amor Nalo ». Mornalo, c'est la commune d'un poète guadeloupéen qui s'appelle Florette Morand, un grand poète, une jeune femme ravissante, et qui est la filleule de Pierre Mac Orlan. Alors Fleurette Morand était là ce jour-là et Pierre Macorlan m'a dit « Je vais t'écrire une chanson qui s'appellera « Amor Nalo » et tu en feras un disque ».
Tour de chant, Martin Penet, France Musique.
J'ai acheté un jardin clos pour rester seul avec ma peau. Toutes les fleurs de Amor Nalo ont voulu m'offrir un cadeau. Filles en fleurs dans l'océan me chantaient voici le printemps. C'était la fête de Fleurette, joli mois des cerisettes. Sur l'horizon, Amor Nalo, Saint-Simon, c'est un beau bateau. Il est venu, pavillon haut, nous porter le bonjour de Bordeaux. J'ai acheté de papillons, couleur d'azur et de passion, de papillons, couleur de mer, bleu d'azur et rouge. Et je me suis brûlé les doigts au soleil d'or de leur pavois, un soir de biguine à la plage, quand j'étais une fille sage. Sur l'horizon, Amor Nalo, Saint-Simon, c'est un beau bâton qui nous enlève nos amants. Mon amour vogue au gré du vent.
Cette chanson mélancolique figure donc sur l'album 33 tours préfacé par Macorlan que Moon de Rivelle a consacré en 1969 chez Le Chant du Monde aux poètes français, incluant Jean-Pierre Chabrol et Macorlan, les autres étant réunionnais ou caribéens. La disparition de l'écrivain en juin 1970 marque également la fin d'une époque pour la diffusion de ses chansons. Durant les années 70, il n'y aura guère de nouveaux interprètes de Macorlan, hormis la chanteuse Miss Tigri, dont les reprises à la radio des grands standards de l'écrivain s'ajoutent à celles des deux grandes fidèles que demeurent Montero et Morelli. Il faut donc attendre une douzaine d'années pour voir surgir un nouvel élan incarné par le chanteur Patrick Denain. Amoureux de l'accordéon et des chansons à texte, il met en musique d'autres poèmes de Macorlan et enregistre en 1982 chez Arion un album intitulé « Chansons pour l'aventure immobile ». Deux ans plus tard, il est invité par Jean-Louis Foulquier sur France Inter dans une émission hommage à Macorlan.
Moi j'étais encore un peu jeune. À Sainte-Cécile, j'allais communier. Lui, mon petit copain, est à la courtille. Pensait qu'à dormir et à se les caler. Je lui répondais, mais bien sûr, mon ange. Quand il me disait, on se mariera. Je ne m'en ressens pas pour laver des langes. Quand t'auras de la barbe, on en reparlera. Et puis on s'est dit au revoir par là-dessus. C'est très bien comme ça, mais n'en parlons plus. Quand il eut 16 ans, il fut un sale gosse. Il fréquente tous les malfrats du coin. Il fauchait les cloches, ça devenait atroce. Mais il est beau comme un chérubin. Jour chômé ou non, il me comptait Fleurette. Je ne pouvais plus m'en débarrasser. Je lui disais au lieu de casser ma sonnette, tu ferais bien mieux d'apprendre un métier. Il ne m'a rien dit, mais il s'est paré vers je ne sais plus quelle calamité.
En 1989, Monique Morelli rend un dernier hommage à Macorlan en enregistrant 7 titres pour compléter la réédition en CD chez EPM de son 33 tours de 1962 consacré à l'écrivain. Mais cela se passe 4 ans avant sa disparition avec, hélas, une voix déjà bien fatiguée. Côté jeune génération, Lou Saint-Agne adopte en 2000 « Les progrès d'une garce », titre qui est intégré sur le CD produit en 2009 par le musée départemental de Seine-et-Marne avec plusieurs groupes de musiques actuelles d'Île-de-France chargés de revisiter le répertoire de Macorlan. Ce disque hors commerce est édité à l'occasion d'une exposition consacrée aux chansons de l'écrivain, célébrant le personnage public qu'il avait constitué. le béret, le perroquet, la pipe, l'accordéon, dont il jouait en amateur, ces décors urbains peuplés de soldats, de marins, de prostituées au destin plus ou moins funeste, ont construit un corpus de 60 chansons qui, globalement, sont empreintes d'une grande nostalgie. Or, parmi les multiples activités de Macorlan, romancier, nouvelliste, reporter, essayiste, parolier, la moins connue est sans doute celle de poète. En 1954, il a rassemblé dans le recueil « Poésie documentaire complète » un ensemble de textes écrits au lendemain de la Grande Guerre dont l'inspiration se rapproche du mouvement surréaliste. Contrairement aux chansons ultérieures de Macorlan, ces poèmes n'étaient pas destinés à être mis en musique. C'est pourtant la tâche à laquelle s'est attelé en 2017 Bernard Ascal, auteur-compositeur et directeur artistique pour le label EPM, comme il me l'a expliqué récemment.
Je connaissais très bien les poèmes, poèmes en prose, et on a affaire à un tout autre personnage, c'est-à-dire on a affaire à quelqu'un de plaisantant, ironique, maniant l'eau forte littéraire comme les meilleurs, ayant grand sens de la répartie, personnage complètement aux prises avec l'actualité, complètement aux prises avec le devenir de la société, c'est-à-dire le fait qu'on est en train de passer à une société dont la mécanisation, l'industrialisation va obligatoirement complètement déposséder les individus de leur propre destin. Là, c'est étonnant parce que ce Macorlan-là est totalement exclu de ce qu'il a fabriqué, qui est réellement lui, il n'y a pas à discuter. Mais l'autre est tout autant lui. Et je me suis dit, et si dans le fond, Macorlan, est-ce qu'il a joué ça sur un coup de dé? Comment a-t-il pris sa décision? Si le dé était tombé sur l'autre face, on aurait donc un Macorlan qui serait avec des propositions rock ou je ne sais quoi, enfin, pas du tout quelque chose qui vient de la chanson traditionnelle, mais qui serait en fait complètement plongé dans la chanson la plus vivante qui soit. Alors, j'ai pas voulu tremper dans le côté rock ou rap ou chose comme ça, parce que je trouvais qu'il n'était pas question de faire une pseudo-actualité, mais j'ai vraiment voulu prendre donc le contre-pied en abordant cette partie de son travail. Et donc, une voix d'homme, pas d'accordéon, des instrumentistes improvisateurs de jazz et donner le chant libre à cet autre Macorlan qui parle du futur, qui parle du présent, lui restant toujours à distance mesurée et donc ne laissant pas un lyrisme débridé s'épancher, restant toujours avec cette forte ironie qu'il caractérise.
Alors, les poèmes que vous avez utilisés, Bernard Ascal, pour faire ce disque et ce spectacle Pâtisserie mécanique, datent de quelle époque?
Alors là, c'est vraiment 1923, 24, 25, ils paraissent en 26. Et donc Pâtisserie mécanique a été pour moi une tentative de cet autre Macorlan que Macorlan aurait pu choisir de mettre en avant.
À cette pâtisserie mécanique, clients mécaniques, des ventres mécaniques et des yeux mécaniques, pour les rouler avec satisfaction dans les quatre sens de la croix latine. À rester trop longtemps devant cette boutique où les turbines déroulent et enroulent des courroies qui aboutissent à nos dents, on se sent pris d'un malaise impérieux de dévorer tout autour de soi. Après les brioches, les tartes, les craquelins et les gaufres, on dévorera sur un air de danse les vendeuses blondes et dodues. Un autre coup de gosier engloutira les cuisiniers sans hygiène et leur système pileux.
Pâtisserie mécanique est la chanson-titre de l'album qu'en 2017, Bernard Ascal a consacré à 19 poèmes de Macorlan, mis en musique de façon très originale, avec des arrangements d'Yves Morel. L'année suivante, Ascal a enregistré des écrits de guerre de Macorlan, trop souvent oubliés par les auteurs d'anthologies de récits d'écrivains sur 14-18. Comme nous l'avons vu pour Germaine Montero au début de cette émission, Macorlan a soutenu et défendu nombre d'artistes, en particulier des chanteuses comme Colette Renard, Francesca Solville, Simone Bartel ou Rosalie Dubois. Il a rencontré cette dernière en 1959, au début de sa carrière, et l'a soutenue par différents articles. Ils habitaient alors tous deux à Montmartre et se sont liés d'amitié. Mais les contraintes artistiques imposées par la maison de disques de Rosalie Dubois à l'époque, Ricordi, puis par les hasards de la vie, ont fait qu'elle n'a jamais pu enregistrer Macorlan. Jusqu'au jour de 2018, où son ami Bernard Ascal lui offre le CD Pâtisserie Mécanique, qui la séduit beaucoup. Naît alors un projet un peu fou, comme elle me l'a raconté tout dernièrement.
Un jour, je dis à Bernard Ascal, je viens d'être opéré, et je veux faire une dernière fois un disque. Et le seul poète qui manque à mon anthologie, c'est Macorlan. C'était le seul qui me manquait. J'avais Guy Vic, j'avais Prévert, j'avais Dimet, j'avais Fanon, j'avais Béat. Et là, le grand trou de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et il y a eu une grande discussion chez EPM. Ils ont fait un boulot pas possible parce que ce que vous entendez, j'ai quand même un défaut de prononciation. Un boulot mais titanesque pour le mixage. Et j'ai enfin pu sortir et pour la dernière fois chanter Macorlan.
Donc c'était une manière de fêter en beauté vos 85 ans.
Voilà, c'est formidable, non ?
La charcutière est blonde et pâle, ses adorateurs savent bien que sa chair est du blanc mangé, que sa chair est du blanc mangé. Quand elle tombera dans la machine à saucisses, sa chair sera vendue sous le nom de boudin blanc. Sous le nom de boudin blanc, ce destin cruel ne la surprendrait pas, car la charcutière a des principes de charcutier.
Comment avez-vous choisi les chansons avec Bernard Ascal ?
Ben, c'est-à-dire qu'on a choisi avec Bernard Ascal et avec Bernard Berger, mon mari, les chansons qui me correspondait, c'est-à-dire la charcutière, la feuille d'impôt. Ah, la feuille d'impôt, je l'ai sur le cœur. Hein. Et puis, la fleuriste et les marchands de glace. Les autres, ça a été plus le choix de Bernard Ascal. Le résultat, c'est Cuir et Vernis, et aujourd'hui, le plaisir de vous rencontrer. Voilà.
Pourquoi est-ce que vous aimiez Macorlan ?
Pour son humanité. Pour ça, comment vous expliquer, ce grand bonhomme ne savait pas qui était Macorlan. Et ça, moi, je suis très touchée par les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur valeur, ou qui la connaissent, mais qui n'en font pas un étalage. Voilà pourquoi je l'aimais. C'était un humain et un gentil, un vrai gentil. Ça court pas les rues, les vrais gentils. Oui.
Les arts, les lettres, les filles, les employés de commerce
et quelques enfants du quartier se réunissent ici devant la table de marbre.
Sur quoi Estelle dépose le bœuf et les pommes de terre frites? C'est dans une atmosphère semblable que vécu François Fillon, Lénine, avant la guerre, prenait ses repas dans ce restaurant. Les autres clients ont depuis changé également de boutique.
Café, restaurant, billard. Enregistré en duo par Bernard Ascal et Rosalie Dubois, figure sur son ultime opus, Couleurs et Vernis, sorti chez EPM en 2019. Cette maison de disques, qui accorde une grande place à la chanson poétique et patrimoniale, a également publié en 2013 une anthologie Macorlan en 3 CD et 1 DVD, ainsi que les albums de Bernard Ascal, de Monique Morelli et d'autres interprètes dont il a été question au cours de cette série d'émissions. Vous pouvez bien sûr les réécouter et les podcaster sur le site francemusique.fr à la page Tour de chant. remercie Dorothée Goll à la préparation, Cédric Châtelus à la technique, Massimo Bellini à la réalisation, Aude Vassan et Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.